Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Michel Quintin, Grégory Sirgue et Serge Denovac. Messieurs, bonsoir.
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 Au sommaire de cette émission, de la voile avec la Coupe de l'América, du football avec la 8e journée de Ligue 1 et de la Formule 1 avec le Grand Prix des États-Unis. Nous débattrons ensuite de la volonté de LVMH et de Red Bull de racheter et de créer un deuxième grand club de football à Paris. Et nous terminerons, comme toutes les semaines, par les coups de cœur de nos invités. Michel Quintin, on va commencer par vous, avec la Coupe de l'América, qui est tous les 4 ans, grosso modo, un événement planétaire. Et pour la troisième fois d'affilée, c'est le défi néo-zélandais Emirates Team New Zealand qui s'est imposé.
Bah oui, une belle victoire, et puis elle était plus ou moins attendue, parce que de toute façon, tant ils dominent sur la Coupe de l'América, mais bon, après justement la progression des Anglais sur la Coupe Louis Vuitton, on se demandait justement quelle opposition ils pourraient faire aux Néo-Zélandais, et puis on a vu que les Néo-Zélandais étaient vraiment au-dessus dans beaucoup de compartiments.
Et cette régate à deux sur cette finale donc de la Coupe de l'América, il y a presque pas eu de match.
Ouais, il y a eu des beaux matchs disputés au début, et puis c'est vrai que plus c'est allé, après il y a eu les deux contre-perf, on va dire, des Néo-Zélandais là. Et puis après, ils ont repris leur marche en avant, et c'est vrai que les derniers matchs, ça a été les écarts étaient beaucoup plus importants, ouais. Et c'est vrai que on a vu des Néo-Zélandais toujours en phase avec les différentes bascules de vent dans un vent très changeant à Barcelone, et ils avaient un bateau qui allait bien dans toutes les conditions de vent, qui était jamais en déficit de vitesse, et puis ils ont fait surtout beaucoup de différence sur les manœuvres, notamment leur virement de bord où ils gagnaient à chaque fois beaucoup de temps. Donc c'est vrai que par rapport aux Anglais, c'est vrai que quand il y a une supériorité dans des domaines comme ça, dans les virements de bord par exemple, c'est vrai que les Anglais ils cherchaient pas à déclencher l'affrontement sur des séries de virements de bord, au contraire ils essayaient de s'échapper quoi.
Alors, vous l'avez dit, donc les Britanniques avaient gagné la Coupe Louis Vuitton. On va peut-être refaire un petit balayage de ce qu'est la Coupe de l'América pour les néophytes. Donc la Coupe de l'América, c'est le Defender, c'est celui qui a gagné la dernière édition face au Challenger, qui a remporté la fameuse Coupe Louis Vuitton. Dans la Coupe Louis Vuitton, on avait cette année 6 ou 7 défis.
Moins que ça.
Il y avait un défi français, un défi italien, défi suisse.
Voilà. Et donc italien, suisse, français,
britannique, je sais plus quel est le cinquième, mais donc ces 5 défis se sont affrontés sur un match à chaque fois, un contre un.
Voilà, et donc ils ont fait d'abord, ils se sont rencontrés, les Français ont été éliminés très vite, donc ils n'étaient pas dans le dernier, les demi-finales, et puis ensuite, les Anglais ont pris le dessus sur les Italiens en finale de la Louis Vuitton Cup, et pour pouvoir aller affronter les Néo-Zélandais.
Alors elle a lieu tous les combien d'années cette Coupe de l'América?
Alors c'est le Defender justement qui choisit, donc là on sait pas trop, il parle sans doute de le faire assez proche, donc d'ici 3 petites années. C'est lui qui établit les règles, c'est le Defender à chaque fois qui établit les règles, et pour rappeler que c'est le plus vieux trophée sportif du monde, la Coupe de l'América, et donc elle a vraiment une histoire faite de différents rebondissements, mais elle était dominée pendant quasiment un siècle par les Américains, et puis depuis les années 80, ça y est, ça a basculé
de la Nouvelle-Zélande. Quel type de bateau, pouvez-nous, sans rentrer trop dans le détail technique, mais qu'on puisse expliquer un peu à nos auditeurs quel type de bateau.
Alors c'est des bateaux qui sont révolutionnaires, puisque c'est des bateaux qui n'existaient pas avant la Coupe de l'América, c'est des monocoques sur foil. Donc c'est vrai qu'on avait vu des multicoques, des catamarans sur foil notamment, sur les précédentes Coupes de l'América, et là ils sont partis sur un concept d'une page blanche, et pour développer un monocoque sur foil, donc qui est sur deux pattes pratiquement, puisque il y a juste le foil sous le vent et puis le safran qui touche l'eau. Et c'est des bateaux qui atteignent très rapidement 40 nœuds.
C'est ça, on a presque l'impression apparemment qu'ils ne touchent plus l'eau même.
Voilà, qu'ils vont 4 fois plus vite que le vent, quoi. Donc c'est phénoménal, et c'est un beau spectacle, même si la confrontation avec des bateaux qui, avec telle vitesse, la confrontation elle se fait vite, même si on peut rapidement refaire son retard vu les vitesses. Mais c'est vrai que il y a très vite pas de match, il y a des différences de vitesse, quoi.
Alors c'est aussi la victoire d'un barreur, Peter Burling, quand même. Troisième victoire d'un Coupe d'Amérique 2017, 2021, 2024, à 33 ans, c'est pas mal ça.
Ouais, c'est pas mal. Alors là, cette fois-ci, il était associé avec un autre barreur, parce que justement, il y a un barreur de chaque côté du bateau. Donc c'est la spécificité justement de cette édition. Donc et c'est Nathan Outridge, qui était de l'autre côté. Et à tous les deux, ils ont fait vraiment une paire exceptionnelle, même si en face, il y avait quand même des messieurs de la voile, c'est-à-dire que là, si on sur les quatre barreurs de la finale, si on compte toutes les titres et médailles olympiques et les titres de champion du monde, je pense que on dépasse l'entendement.
Donc vous l'avez dit, c'est donc le vainqueur qui choisit et la date, mais grosso modo, c'est tous les 3-4 ans. Voilà. C'est le temps de préparation d'un bateau.
Non, parce que là, ils vont partir sur le même bateau. Donc justement,
pas de grosse révolution technique.
Voilà, pas de grosse révolution. Il y aura peut-être des petites évolutions dans la jauge, mais le concept marche bien et puis ça évite justement d'avoir de rechercher des budgets. C'est déjà les budgets sont énormes. Il y a beaucoup de une équipe pour la Coupe de l'Amérique. Ils sont que 8 sur le bateau, mais par contre ils sont 250 quoi. Une équipe et avec des ingénieurs qui travaillent jour et nuit parce que les progrès il faut qu'ils le fassent pendant la compétition et là. La référence, c'est quand même la Coupe de l'Amérique à San Francisco, avec la remontada justement des Américains qui étaient menés 8-1 et qui ont réussi à s'imposer 9-8 au final parce que ils ont réussi à développer davantage le bateau sur la durée de
l'épreuve,
de la deuxième partie quoi.
Vous avez parlé tout à l'heure aussi du défi français éliminé très vite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un défi français un peu compétitif dans cette Coupe de l'Amérique.
Mais en même temps, ils partent de tellement loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les derniers inscrits. C'est les derniers, ils ont accéléré un petit peu les choses. C'est qu'ils ont racheté justement la base du bateau néo-zélandais. Les Néo-Zélandais proposaient justement cette option pour essayer d'attirer plus de participants.
Le bateau d'il y a 4 ans, il y a 3 ans.
C'est un bateau qui était performant, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas encore au point au niveau des manœuvres, de la coordination de l'équipage, et ça fait beaucoup. Donc beaucoup de petites erreurs, ils sont pas passés loin, notamment face aux Anglais sur un match. Il y a eu plein de matchs où c'était presque ça. Et puis malheureusement, ça l'a pas fait. Donc ils ont gagné, je crois, qu'un seul match contre les Suisses, et c'est pas assez pour aller plus loin.
Bon, la Nouvelle-Zélande reste pour l'instant le pays de la voile dans la Coupe de l'Amérique.
Ouais, et même au niveau de la voile mondiale, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la référence pour un tout petit pays comme ça. C'est un peu comme dans le rugby, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment beaucoup de moutons, peu d'habitants, mais mais voilà, un savoir-faire
les All Blacks de la mer.
Voilà.
Bon, ok, on va enchaîner avec le football et Grégory Sirk et Serge Denovac cette huitième journée de Ligue 1. Où Monaco en entame n'avait pas pu faire mieux que match nul contre Lille à la maison, donc avait laissé le champ libre au PSG pour reprendre la tête du championnat, et Paris qui en a profité, donc il s'est imposé à domicile face à Strasbourg 4-2. Serge Denovac, vous pouvez nous dire sur ces deux premiers matchs déjà de cette journée?
Finalement, Lille était quand même, par rapport aux résultats qu'ils ont fait dernièrement, notamment en battant le Real de Madrid, je crois que c'était un gros morceau, et le nul, je crois que satisfait un petit peu les deux équipes, et pour moi c'est un bon résultat. Il y a des nuls qui sont pas heureux, mais celui-ci l'est.
Alors par contre, il était assez indigent en termes de jeu, parce que même Genesio a dit qu'il était désolé pour les spectateurs et téléspectateurs, tellement ça avait été saoulant à regarder.
Alors, on attend toujours naturellement d'un match de foot que ce soit avant tout un spectacle. Mais
surtout quand il oppose des têtes d'affiche.
Exactement, mais après, je crois que quand l'enjeu dépasse le jeu, ça tue le jeu.
L'enjeu peut dépasser le jeu à la 8e journée ?
Déjà à la 8e journée, alors d'abord parce que le rythme proposé aux joueurs est démentiel, on en parlera peut-être, avec un calendrier qui pour moi, l'UEFA... En multipliant les matchs, va tout simplement faire que les clubs ne vont plus lâcher les joueurs pour les sélections nationales et que beaucoup de joueurs vont être blessés et on risque de voir de nouveaux petits prodiges comme à Paris Saint-Germain où le jeune de 18 ans qui est rentré a fait une très belle entame.
Alors effectivement, vous l'avez dit, le PSG qui s'est imposé 4-2 avec une équipe très remaniée comme le fait souvent désormais Luis Enrique après la trêve internationale. où il fait jouer Zaïre Emery arrière droit, où il fait jouer Beraldo arrière gauche, et donc le petit Sani Mayulu qui s'est offert son premier but en Ligue 1. Grégory Sirg.
Oui, on voit que le PSG est un peu plus complet que les saisons précédentes. C'est ce qu'on disait en fin de saison dernière, où avant le projet de jeu c'était de balancer sur Mbappé. Là, on fait rentrer plus de jeunes, ça combine plus. On a Barcola qui est en train de prendre également beaucoup plus de place en attaque. Et je me suis amusé à regarder aujourd'hui, on a 3 buteurs du Paris Saint-Germain qui sont dans le top 10 des buteurs de Ligue 1. On n'a plus un seul joueur qui attire toute l'attention sur lui. Donc déjà, ça change pas mal de choses. Et des matchs comme là où Strasbourg est revenu au score à un moment, peut-être que la saison dernière, ils n'auraient pas réussi à passer outre parce qu'ils étaient focalisés sur le match de Ligue des Champions qui arrive dès cette semaine. Que là, le fait d'avoir justement plus de rotation dans l'effectif, ça permet de gagner ce genre de match.
Alors, pour compléter ce podium, Marseille s'est imposé ce matin assez facilement sur la pelouse de Montpellier 5-0. Marseille, on sait, ne joue pas la Coupe d'Europe, donc c'est pour eux le championnat qui va vraiment être phare. Et on a eu un petit trou d'air ces deux dernières journées là où ils étaient moins performants qu'au début de saison. Bon, Montpellier risque d'être la victime expiatoire d'un certain nombre de clubs cette année si ça ne change pas. Mais malgré tout, il faut aller chercher le résultat.
Bon, il y a des scores qui m'ont étonné. 8-0 de Nice m'a complètement étonné. Le 5-0 de Montpellier m'étonne aussi. Je crois que quand on voit un petit peu des clubs à ce niveau-là qui n'ont pas la défense en adéquation avec le projet de jeu, je pense que leur place en Ligue 1 va être naturellement compromise. Et je crois que si on regarde le classement, à partir des clubs qui ont 10 points, ils sont 6, je crois, qui vont se battre tout simplement pour éviter la relégation.
Hein. Et encore, Montpellier a de la chance d'avoir un très bon gardien, parce que sinon, ils pourraient prendre des valises encore plus chargées à chaque match.
Bon, il risque de se passer des choses à Montpellier, puisque ce matin, Michel Derzakarian, l'entraîneur, a été démis de ses fonctions. Donc, on va voir qui Montpellier va nommer en tant qu'entraîneur. Mais effectivement, il fallait qu'il se passe quelque chose, même si souvent le coach,
le
coach fait office de fusible. Mais il va falloir que Montpellier se remette dans le bon sens. Ils n'ont que 4 points, comme Angers. Ils sont les deux derniers clubs, mais ils sont sur une dynamique où ils restent sur 3 défaites consécutives.
Avec
alors qu'Angers s'accroche avec des matchs nuls, un peu à la star de ce que fait Vannes en rugby, aller chercher des bonus défensifs. On sent Angers beaucoup plus armé en termes de mental que Montpellier aujourd'hui.
Tout à fait.
Les autres résultats de cette journée, on a Lens qui est allé s'imposer à Saint-Etienne 2-0.
Alors Saint-Etienne, je crois que si on entend un petit peu les commentaires de Jean-Michel Larquet, il est complètement bouleversé par ce qu'il voit. Saint-Etienne nous a fait rêver, hein. Et aujourd'hui, c'est un cauchemar que de prononcer simplement ce nom. Et je dois dire que c'était très étonnant. Voilà.
Bon, les Stéphanois qui sont 14e à l'issue de cette journée avec 7 points, donc effectivement seulement 3 points devant les deux derniers, donc ça peut aussi très très vite basculer dans ce championnat à 18 clubs. Lyon, qui va beaucoup mieux depuis sa défaite un peu dure contre Marseille à domicile, n'a fait que d'enchaîner des victoires, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Ils sont imposés assez facilement au Havre 4-0 ce matin.
En même temps, le Havre.
Le Havre va aussi être dans la.
Le Havre, on ne peut pas dire que c'est un Havre de paix.
Non, mais voilà, premier non relégable, comme l'a dit Grégory, 6 points, ça va aussi être très très long cette saison, je pense, pour les Normands. Mais Lyon est sur une bonne dynamique, malgré tout.
Oui.
Donc, ils remontent au classement, ils sont 7e aujourd'hui avec 13 points, donc on sent que peut-être les choses se sont enfin enclenchées.
Alors, je pense que ils ont enfin digéré le changement de président de club. Je pense que maintenant la crise est passée et que le projet de jeu commence à prendre corps.
Et ça va toujours mieux quand on a des résultats.
Tout à fait.
C'est toujours plus facile. Auxerre, qui s'est imposé dans un match très important contre Reims 2-1 et qui s'éloigne un tout petit peu de cette zone rouge avec 9 points. Ils n'avaient pas beaucoup gagné les Auxerrois, mais ils ont gagné le match qu'il fallait.
C'était les deux clubs qui étaient un petit peu en balance pour essayer de ne pas couler, et Auxerre est passé, mais ça a été un match très équilibré.
Oui, ils ont fait la différence à domicile. On a Nice qui est allé chercher le match nul à Nantes, un but partout.
Oui, pour moi c'est très étonnant parce que je ne les voyais pas dans cette dynamique pour aller chercher un résultat. Espérons que ça dure, mais je n'y crois pas trop.
Nantes qui a quand même du mal, hein, beaucoup de matchs nuls sur 8 journées de championnat, 4 matchs nuls.
Alors, Nantes reste un club avec des convictions et une base solide. Il dénature pas le football. Il reste
sur sa philosophie de jeu, voilà.
Et je crois qu'ils s'en sortiront encore cette année.
Ah, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'équipe d'Antoine Camboire. Et le dernier résultat qu'on n'a pas dû commenter, c'est Brest, le derby breton. Brest, Reims, un partout.
Oui, c'était pas un match champagne. Hein.
Bon, deux équipes, voilà, Brest, on attendait un peu mieux, mais voilà, il va falloir aussi qu'ils appréhendent les enchaînements Coupe d'Europe, championnat, etc., un calendrier un peu plus étoffé que les années précédentes.
Surtout là, ils vont recevoir le Bayer Leverkusen, donc le champion d'Allemagne en titre, c'est pas un petit morceau, donc vaut mieux peut-être mettre les cadres en repos pour bien figurer en Ligue des Champions.
Exactement, vous l'avez dit, donc on enchaîne cette semaine avec les Coupes d'Europe. Donc Monaco recevra l'Étoile Rouge de Belgrade mercredi matin, le PSG recevra le PSV Eindhoven aussi mercredi matin. Donc Brest se déplacera bien chez le champion d'Allemagne en titre jeudi matin à Leverkusen. L'Atlético de Madrid recevra Lille jeudi matin et en Ligue Europa, Nice se déplacera en Hongrie à Ferencváros vendredi matin et Lyon recevra le Beşiktaş d'Istanbul aussi vendredi matin. Donc 6 clubs français sur le pont, c'est-à-dire un tiers de l'effectif du championnat, c'est quand même aussi un facteur important. C'est des proportions qu'on n'a pas connues de ces dernières années.
Mais au niveau des points UEFA, on n'est pas si mal loti que ça. Je crois que les clubs ont relevé un petit peu le défi qui n'était pas présent sur le terrain ces 10 dernières années. Maintenant, il va falloir confirmer. Et je crois que la prochaine journée va être très importante où certains clubs vont jouer pratiquement leur saison. Hein.
Alors la prochaine journée, justement, c'est le week-end prochain avec un fameux Marseille-Paris-Saint-Germain en clôture de cette journée, le classique. Donc on va aussi voir un peu comment les Marseillais vont appréhender la venue de ce PSG. On sent qu'il va y avoir, comme d'habitude, beaucoup de tensions, mais voilà, les deux clubs en haut du tableau, c'est pas forcément arrivé souvent ces dernières années, donc
et dans une bonne dynamique.
J'espère simplement que ce sera la fête du football, parce que quand on voit ce qui s'est encore passé avec l'arrêt par les forces de l'ordre des supporters marseillais pour aller à Montpellier, et ce qui s'est passé suite à ce refus un peu du ministère de la Jeunesse et Sport de laisser ce match se faire avec plus de 450 supporters marseillais, c'est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est les chants xénophobes aussi qui se déroulent à peu près partout à l'heure actuelle
et
Europe.
Exactement, qui au lieu de se raréfier ont tendance plutôt à proliférer.
Et je crois qu'on va se déchaîner avec de la haine pour regarder avant tout un match qui devrait être le spectacle. Et finalement, il n'est pas sur le terrain, il est dans les tribunes.
Bon, on va suivre cette prochaine journée et cette journée de Coupe d'Europe cette semaine avec beaucoup d'intérêt pour les clubs français. Messieurs, je vous propose de passer et d'enchaîner avec de la Formule 1. C'était le Grand Prix des États-Unis ce matin, même 19e Grand Prix de la saison. Et c'est un doublé Ferrari, Grégory Sire, qui a couronné ce Grand Prix. Charles Leclerc s'est imposé, le monégasque, devant son coéquipier Carlos Sainz Jr. et devant Max Verstappen, un tout petit peu moins d'une seconde devant Norris, qui était devant lui
de 4 secondes seulement. Il a eu une pénalité pour avoir doublé hors des limites du terrain.
Très discutable, très discutable cette pénalité.
Qui est très discutable puisqu'ils étaient tous les deux hors des limites.
Il a été donc un peu poussé par Verstappen.
C'est ça, donc c'était une pénalité de 5 secondes sur un écart de 4 secondes. Donc au final, Verstappen se retrouve sur le podium comme ça. Un Grand Prix où il fallait surtout pas louper le premier tour puisque c'est là que tout s'est fait, voire même dans le premier virage.
Exactement,
et
c'est là où Charles Leclerc a pris la tête.
C'est ça. Le peu d'animation qu'il y a eu, c'est dans les 10 derniers tours où il y a eu un peu un châssis croisé entre Norris et Verstappen pour la 3e place. Et également à noter le début de Grand Prix catastrophique de Hamilton, qui avait fait le plus dur au départ en grappillant des places. Il avait une stratégie différente des autres pilotes sur laquelle il aurait pu capitaliser. Et très rapidement, il est sorti du circuit et a été contraint d'abandonner tout seul, comme un grand. Et a été contraint d'abandonner. Et Russell, qui est parti de la dernière place et qui finit dans les points, par contre. Ça, c'était
sixième.
Un très, très beau Grand Prix de sa part. Donc, affaire à suivre pour Verstappen qui avait l'air en bonne forme.
Et il avait gagné la course sprint de samedi.
Il avait gagné la course sprint. Il est deuxième des qualifs. Et le prochain Grand Prix qui est au Mexique, il a gagné les trois dernières éditions. Donc il est à surveiller sur la prochaine course. Et sur ce Grand Prix des États-Unis à Austin, on a retrouvé un peu le défaut de certains Grands Prix de Formule 1 où ça fait juste une procession jusqu'à la fin. Et il n'y a pas eu de mystère sur si Leclerc allait gagner ou pas ce Grand Prix.
Oui, il s'est très très vite détaché. Il s'est en plus détaché devant Carlos Sainz, donc il devait peut-être aussi y avoir une consigne d'équipe, même si
oui, de ralentir Verstappen pour pas qu'il puisse trop
remonter. Visiblement, il n'en a pas eu besoin parce qu'il marchait effectivement très très bien. Mais le doublé Ferrari est important parce qu'il permet à la Scuderia de recoller très près au classement des constructeurs.
Bah, au classement constructeur, c'est ça. On a McLaren qui s'échappe un peu en tête puisque on parle surtout de Norris, mais Piastri est toujours très bien placé aussi dans les Grands Prix.
Exact, il fait cinquième sur ce Grand Prix.
C'est ça. Et Ferrari, donc, il pousse derrière Red Bull. Red Bull qui peut compter malheureusement que sur Verstappen en termes de fiabilité pour scorer.
Sergio Perez est, j'allais dire, encore très loin, mais c'est... il est septième à 1 minute.
Il est septième, mais ça devient compliqué, quoi. Et donc ça, c'est pour le classement constructeur.
On peut dire, mais son baquet est menacé quand même. Hein. Il y a quand même...
clairement, là, il y a le petit Lawson qui est chez... alors, comment ils l'ont appelé, leur écurie filiale, je ne sais plus.
Donc, on va dire que dans l'antichambre
de chez Red Bull. Qui est dans l'antichambre et qui attend juste pour monter dans le baquet de...
Mais a priori, les patrons de chez Red Bull sont prêts à enclencher très très vite.
Oui, il me semble l'avoir entendu, que ça avait été signifié à Perez que son baquet était clairement menacé et que c'est Liam Lawson qui allait le prendre.
Ça tombe bien, le prochain Grand Prix est chez lui, Perez. Donc,
c'est ça.
Histoire de lui mettre un petit peu de pression.
C'est ça, et en parlant de pression, il y a Verstappen qui maintenant, avec plus d'expérience, devient un peu roublard aussi. Il voit que ça marche très bien chez McLaren et il jette un peu d'huile sur le feu sur la rivalité Piastri et Norris, où il a déclaré dans la semaine que Piastri était un très bon pilote, qui devrait réclamer la place de numéro 1 et pas rester numéro 2, etc. Donc c'est très malin de sa part aussi. Il y a à la fois le combat sur le circuit, mais en dehors également.
Le jeu d'intox.
C'est ça.
Au classement des pilotes, donc on a Verstappen qui a repris des points à Norris finalement ce week-end, puisqu'il termine devant, il gagne la course sprint, donc il se retrouve avec 57 points d'avance au championnat sur Norris. Et c'est Leclerc qui fait la bonne opération malgré tout, puisqu'il se rapproche aussi de Lando Norris à 22 points. Et Piastri, comme vous l'avez dit, est pas très loin, quatrième du championnat du monde, 247 points.
C'est donc mathématiquement, tout est encore possible d'ici la fin, puisqu'il reste 5 courses,
5 Grands Prix et 2 courses sprint.
Et c'est ça, et une victoire en Grand Prix étant de 25 points.
Donc il reste 125 points, plus les points de la course sprint. Donc il reste
plus les points du meilleur tour.
Voilà, qui disparaîtra l'an prochain.
Qui disparaît l'an prochain. À noter que c'est Ocon qui a eu le... C'est anecdotique, mais qui a eu le point du meilleur tour.
Un point pour Alpine, c'est toujours important, puisque dans le classement des constructeurs, Alpine et Williams se battent pour la 8e place. Et Alpine est aujourd'hui à 13 points, Williams à 17 points, très très loin des trois monstres que sont McLaren, Red Bull et Ferrari. Mais chaque point est important pour essayer de grappiller une place au championnat du monde des constructeurs.
Oui, puisque chaque place équivaut à du budget, donc vaut mieux.
C'est Renault qui a disparu du classement. Renault qui était avant en Formule 1.
Alors c'est Alpine qui a repris la place. Mais effectivement, Renault n'est plus en Formule 1 depuis un certain nombre d'années.
C'est ça. Et Alpine sera encore moins une écurie française à l'avenir, puisqu'ils ont annoncé durant la trêve qu'il y a eu là, durant le mois écoulé, que la construction des moteurs allait quitter les sites français pour être rapatriée en Angleterre. Donc Alpine n'aura de français que l'image maintenant.
Sachant que les voitures étaient en plus pas bleues ce week-end, elles étaient exceptionnellement oranges.
Pour la sortie d'un nouveau jeu Indiana Jones, effectivement. Voilà. C'est l'entertainment à l'américaine.
on s'éloigne un petit peu de la formule. Un pronostic, Grégory Sirk, sur cette fin de saison. Qui vous voyez champion du monde, même si Verstappen a encore un peu d'avance?
Ah, c'est un peu compliqué. J'aimerais bien Norris pour récompenser sa saison. Mais après, Verstappen, il a l'expérience de son côté, donc il pourra trouver les ressources... Pour arriver, c'est au championnat constructeur où là ça c'est plus discuté, et je pense que McLaren sera champion constructeur.
Un final comme on a eu il y a 3 ans sur le dernier Grand Prix entre Hamilton et Verstappen pour
ça
être
ça serait pas mal, mais à condition que ça soit indiscutable et qu'on puisse pas derrière alimenter les débats sur dépassement en dehors ou pas en dehors. Quoi.
Bon, messieurs, on va suivre ça aussi avec, avec attention dans les semaines qui arrivent. On va suivre une petite page de pub et on se retrouve juste après.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Vous cherchez une expérience unique à Nouméa ? Découvrez l'Entrecôte au 360. Un restaurant panoramique avec une vue imprenable sur le lagon et la ville. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner. Et à partir de 17h les vendredis et samedis, réservé au 23 90 90.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Radio Rythme Bleu, il est 17h30. On retrouve tout de suite Olivier Ledain et ses invités pour la seconde partie d'une semaine formidable.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et on va donc passer au débat de cette émission avec les ambitions du Paris Football Club. Cette semaine, LVMH et Red Bull ont fait part de leur volonté de racheter le Paris Football Club, qui est actuellement deuxième de Ligue 2, pour en faire un grand club du football français. Messieurs, qu'est-ce que cela vous inspire, Serge De Novac?
Eh bien, je pense que c'est un nouvel épisode après le Matra Racing de l'époque, le Paris FC maintenant. Franchement, je n'y crois pas.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas? Parce que c'est quand même deux entreprises plus que sérieuses, Red Bull et LVMH. Alors, et on sait que Red Bull, quand ils s'investissent dans le sport, c'est pas pour faire de la figuration.
Tout à fait. Mais d'abord, la mairie de Paris n'est pas très enclin d'avoir deux clubs pro dans la capitale. Ensuite, la culture des supporters, Paris FC part de zéro, du néant.
Il n'y a pas d'histoire. Enfin, il y a pas d'histoire. Toute petite histoire, sans faire d'injure au Paris FC, voilà.
Et surtout, je ne sais pas si Red Bull a mesuré exactement sur les parts de marché ce que peut faire à l'heure actuelle le Qatar. Qui a quand même quelques longueurs d'avance.
Et quelques années d'avance aussi, au-delà de l'aspect financier. Grégory Sirgue,
ça dépend ce qu'on appelle en faire un grand club. Est-ce qu'on veut en faire un club qui gagne la Ligue des Champions ou est-ce qu'on veut en faire un concurrent du Paris Saint-Germain chaque année au championnat et qui se qualifie en Ligue des Champions? C'est ça la différence. Mais pour revenir à ce qui a été dit sur la partie supporters notamment, il y a un bon vivier quand même au Paris FC et c'est le seul club français qui a rendu ses tribunes gratuites, ce qui fait que les tribunes sont pleines à chaque match et ça permet à un autre public que celui du Paris Saint-Germain de venir, où maintenant les places sont à des centaines d'euros à chaque...
À l'heure actuelle, le Parc des Princes est trop petit pour le Qatar.
Oui, ça on est d'accord. Mais il y a beaucoup de touristes qui...
Le problème, trop petit et trop vieux.
Trop petit, trop vieux, et je pense que si la volonté du Qatar est de construire un stade. Ce sera un stade certainement au moins de 80 000 minimum spectateurs.
Ça, il n'y a pas de doute. Et concernant savoir s'il y a la place pour plusieurs clubs, on dit tout le temps à longueur d'année que l'Île-de-France, c'est le vivier de footballeurs de l'Europe. Donc y a, en misant peut-être sur un centre de formation performant, il y a de quoi espérer derrière des beaux lendemains. Quoi.
Non, le vivier des clubs à l'heure actuelle, c'est l'Afrique. Hein. Et les pays de l'Est. Je crois qu'à ce niveau-là, si on regarde bien les effectifs des centres de formation des clubs professionnels, des petits Parisiens qui signent dans les clubs comme stagiaires pro, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Michel Quintin ?
Moi, je dis le Madrid a bien deux clubs. Pourquoi pas Paris ?
Pour Paris est un peu l'exception dans les grandes capitales européennes, puisque effectivement Madrid, Rome, Lisbonne, Londres encore plus, puisqu'à Londres, il y a quasiment 10 clubs. Ouais, pas tous en Première Ligue, mais entre la Première Ligue et le Championship, il y a 10 clubs. Donc Paris fait office d'exception. Donc Serge De Novac l'a dit, on a connu pour certains d'entre nous le Matra Racing à Paris. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, ça très très vite, ça s'est terminé assez vite. Mais et les deux clubs, comme à Milan par exemple, utilisaient le même stade. Donc là, il y a la volonté du Paris FC serait de jouer à Jean-Bouin, qui est juste à côté du Parc des Princes. Donc, alors on va voir, mais effectivement, ça peut aussi alimenter la volonté du Paris Saint-Germain de construire un stade ailleurs.
Je pense. Même. Puis Jean-Bouin, au niveau de la capacité de stade, c'est ridicule par rapport à ce que l'on peut faire en Ligue 1.
Ah, effectivement. Ah oui. Il va, si l'ambition du club est de jouer la Ligue des Champions, il va rapidement être trop petit.
Après, par rapport à ce rachat, alors les investisseurs sont sérieux, mais en Ligue 1, ces dernières années, on a connu quelques rachats de clubs où l'investisseur allait mettre l'argent, etc. Et au final, ça a fait pchit et les clubs se sont retrouvés hyper endettés derrière. Bon là, Red Bull et LVMH, on peut penser que rien que pour leur image de marque, ils vont pas faire ça. C'est pas n'importe quel pimpin qui arrive en déposant un chèque. Mais la crainte que moi j'ai, c'est que le club devienne juste une succursale du groupe Red Bull et que ça serve que à entraîner les jeunes et ils vont se balader de championnat en championnat, d'être prêtés de club en club, jusqu'à ce qu'ils soient assez bons pour aller à celui qu'ils auront choisi de mettre en avant. Pour l'instant, c'est Leipzig, mais...
Alors chez Red Bull, il y a quand même un certain Jürgen Klopp qui vient de signer en expert football. Voilà, même si sa mission est pas encore très claire, ça légitime un petit peu quand même les ambitions de Red Bull sur le football, Serge De Novac.
Mais la signature débat déjà a été surprenante.
Il a pris tout le monde à contre-pied, là, c'est sûr.
Je crois que le contre-pied est parfait. Maintenant, quelle va être son action, son champ d'action? Alors, c'est une image, hein, c'est une belle image, parce qu'il a quand même pour lui, un savoir-être, un savoir-faire. Savoir-faire-faire, maintenant, va être autre chose.
Ah, on va voir. Et quand on pour revenir à ce que vous disiez, Grégory Cirque, sur le rachat, effectivement, la vraie question va être qui Red Bull et LVMH vont mettre aux commandes de ce club. Ça va être ça, la véritable question.
C'est un
Bernard Tapie des temps modernes.
J'en connais pas.
Ils vont peut-être nous en sortir. Hein.
Ils ont peut-être du chapeau.
Je crois que comme dans toutes les générations, il n'y en a eu qu'un. Bernard Tapie, ce sera le seul et unique.
Bon, et est-ce que vous pensez que, voilà, si on essaye de se projeter un petit peu, ça peut concurrencer au-delà du PSG et de la simple ville de Paris, ça peut être un club majeur de la Ligue 1. Aujourd'hui, ils sont quand même deuxième de Ligue 2, donc ils sont quand même sur une dynamique, même si le championnat est encore long.
Chaque année,
ils sont sur une dynamique. On sait que le gap Ligue 2 Ligue 1 est important.
Et chaque année, ils se cassent les dents sur le, ne serait-ce que sur le barrage d'accession. Ils y sont chaque année depuis 5-6 saisons. Ils n'arrivent jamais à passer ce cap non plus.
La marche est très très haute entre la Ligue 2 et la Ligue 1, au même titre qu'un joueur national quand il arrive en pro, c'est un autre monde. Et j'aurais peut-être une pensée, quand on parle un petit peu de ce nouveau club, je pense à un vieux club, moi, c'est Bordeaux. Et j'ai une petite larme au coin de l'œil, parce que de les voir en 4e division, c'est pour ça que je dis que le Paris FC n'est pas encore arrivé au fait de ce qu'il veut.
Alors le challenge pour les Paris FC, si on veut continuer le parallèle avec Bordeaux, va être de trouver des joueurs un peu comme Andy Carroll, qui a refusé des offres magnifiques des Émirats, pour toucher moins que le prix de son loyer aujourd'hui à Bordeaux, mais pour sauver le club dans lequel il a des attaches. Donc,
peut-être qu'ils lui ont promis un vignoble, on ne sait pas.
en tout cas, ça véhicule des belles valeurs qui ne sont pas forcément celles dont on a l'habitude dans le foot ces dernières années. Voilà, donc on a un peu fait le tour de ce sujet. Michel Quintin voulait ajouter quelque chose sur cette volonté de construire un deuxième grand club à Paris.
Non, parce que je crois qu'il y a des spécialistes en face de moi qui connaissent beaucoup mieux, mais ouais, pourquoi pas quand même. C'est-à-dire que voilà, il faut justement innover, faut avoir justement des nouvelles têtes, des nouveaux clubs, pour que justement faire évoluer les choses. Et voilà, c'est peut-être quelque chose justement un nouveau club qui va se mettre en place. Après, c'est sûr qu'avec des partenaires comme ça, ils vont pouvoir attirer des joueurs justement d'un autre calibre peut-être. Et qui vont être attirés au début par l'appât du gain. Maintenant, après, il faut créer ce club, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, il a une petite histoire. Maintenant,
faut en faire un club de Ligue 1.
Voilà.
Est-ce que ça peut pas être bénéfique? J'ai quand même une question. Est-ce que ça peut pas être bénéfique pour les droits TV de la Ligue 1? C'est-à-dire que d'avoir plusieurs clubs qui sont dans le haut du chapeau et pas uniquement, comme c'est le cas depuis quasiment 10 ans, le Paris Saint-Germain un peu tout seul, et puis derrière, c'est jamais les mêmes à la deuxième et à la troisième ou à la quatrième place. D'avoir des équipes constantes sur le plus haut niveau va permettre aussi d'attirer un peu plus de diffuseurs.
Alors, les droits TV, quand on voit que le dernier club de Ligue anglaise touche autant que le premier de...
Même plus, oui. Même plus que le champion de France.
Il y a des questions à se poser. Mais les droits TV, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. On nous sort ça du chapeau tous les ans et il n'y a rien qui se modifie pour l'instant.
Alors c'est plutôt même décevant puisque Vincent Labrune, le président de la Ligue de football, voulait les vendre à 1 milliard. Il n'a pas trouvé preneur. DAZN a pris 400 millions de mémoire et Ebin 100 millions. Donc on est à la moitié de ce qu'il voulait, mais du coup les retombées pour les clubs. Et on a des clubs, d'ailleurs John Textor, le président de Lyon, a assigné la Ligue des versements qui n'ont pas encore été faits par Bein. Donc on sent qu'en plus, déjà à 500 millions, ça coince un peu pour les diffuseurs.
Alors c'est tout qui coince, parce que le football amateur en pâtit aussi. Parce que moins il y a de droits TV, moins les clubs pro naturellement peuvent avoir de subsides, et plus les clubs amateurs aussi souffrent à travers les versements qui sont faits à la Fédération française de football.
Ça, et pour les spectateurs aussi, c'est catastrophique. On avait déjà fait un débat sur le sujet, mais ça fait une multiplication des abonnements. DAZN diffuse pas forcément tous les matchs. Il n'y a même pas des commentateurs à tous les matchs. Enfin, c'est catastrophique, quoi.
Mmh. Bon, et espérons que pour nous, spectateurs calédoniens, on revienne sur des chaînes où on peut voir ces matchs de football. Messieurs, la fin de l'émission approche. On va écouter vos coups de cœur. Michel Quintin, on va commencer par vous.
Alors moi, j'ai un coup de cœur, c'est pour le triathlon français, et notamment le titre de champion du monde de Cassandre Beaugrand.
Après son titre olympique.
Voilà, donc il fait le doublé, championne olympique, championne du monde, mais pas que, puisque derrière, dans les catégories d'âge, il y a aussi beaucoup de super résultats. Donc voilà, c'était mon coup de cœur. Bien sûr, j'avais pas parlé des Néo-Zélandais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
Serge Denovac.
Ben, le coup de cœur, je crois que cette semaine, je n'en ai pas eu beaucoup ici. Par contre, sur les résultats que l'on a vus, je suis un petit peu déçu de voir que certains clubs mythiques ne représentent plus rien en football français. Donc mon coup de cœur est plutôt larmoyant.
Grégory Sirg.
Pour ma part, un coup de cœur pour le tournoi de Touch Rugby qui a été organisé ce week-end et qui a rassemblé des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et qui montre bien, et j'en profite de l'antenne pour passer un petit message, l'importance du sport dans notre société pour véhiculer des bonnes valeurs, rassembler les gens et permettre de créer du lien social. Donc la place du sport est très importante et il ne faut pas l'oublier dans les temps qu'on a où on se pose énormément de questions.
Eh bien messieurs, merci pour cette émission. On va dédier d'ailleurs à Pierre Forest qui est touché par un deuil familial. Voilà, toutes nos pensées accompagnent notre ami Pierre Forest qui est souvent sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.